Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, vous écoutez sur Radio SBS votre programme en français SBS French. Nous sommes le samedi 25 juin 2022, il est 13h à Melbourne, 5h du matin en Bretagne. Je suis Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme chaque samedi, il y aura la chronique rétrospective présentée par Léo Roussel. On fait un bond aujourd'hui de 13 ans dans le passé, on vous fait revivre le 25 juin 2009 et la disparition subite de l'icône de la pop Michael Jackson. Ce sera en milieu d'émission, mais d'abord, on commence avec le journal. Les titres de l'actualité de ce samedi 25 juin. Un coup terrible porté aux droits des femmes aux États-Unis. La Cour suprême révoque le droit à l'avortement et laisse les États choisir s'ils autorisent ou non l'IVG sur leur territoire. Le Missouri devient le premier État à l'interdire, suivi de près par le Dakota du Sud. L'Ukraine retire ses troupes de la ville de Severodonetsk, une étape cruciale pour les soldats russes qui veulent conquérir le Donbass. Fin des plaidoiries en France dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Les avocats de Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie, étaient les derniers à s'exprimer. Et enfin, deux nouvelles médailles pour les Français aux mondiaux de natation à Budapest. Ça fait 8, le record de 2011 est égalé. On en parle dans le journal des sports. La santé et la vie des femmes sont maintenant en danger. Déclaration du président Joe Biden après la révocation par la Cour suprême américaine de l'arrêt Roe versus Wade, qui garantissait le droit à l'avortement depuis 1973. Chaque État est désormais libre de décider de l'autoriser ou non sur son territoire. Le Missouri est immédiatement dans la foulée devenu le premier État à interdire donc l'interruption volontaire de grossesse. Il s'agit là d'un bouleversement majeur pour le droit des femmes. C'est un retour de presque 50 ans en arrière. On écoute Kimberly Kelly, elle est sociologue et spécialiste du genre à l'Université d'État du Mississippi.
C'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que la Cour suprême nous retire un droit établi. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, pour aucun groupe, que ce soit les femmes, les personnes de couleur, les handicapés. C'est un énorme retournement. Nous allons donc créer un pays dans lequel il est énoncé clairement, dans une loi, que l'on ne croit pas les femmes capables de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes, pour leur corps, leur famille, et que l'État doit leur dire ce qu'elles doivent faire. Et bien sûr, cet État est dirigé par des hommes blancs aisés. Pour eux, c'est facile. Si leur fille, leur femme ou leur copine a besoin d'avorter, ils pourront se payer le voyage, tout ira bien. On a pris toute une catégorie de citoyens américains et on leur a dit « Vous n'êtes pas complètement des êtres humains, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions importantes pour vous-même. Nous allons vous appliquer une formule toute faite, décidée par un État qui ne connaît rien à vos besoins, qui ne sait pas ce qu'est être une femme et on va prendre la décision pour vous. »
Joe Biden dénonce une erreur tragique qui est le résultat d'une idéologie extrémiste. Il appelle les Américains à contester cette décision.
Je sais que maintenant, beaucoup de femmes vont devoir faire face à des situations incroyablement difficiles. Je vous entends, je vous soutiens, je suis avec vous. Le consensus, les conséquences sur le peuple américain, les principes centraux d'égalité, de liberté, de dignité et la stabilité de l'état de droit exigeaient que l'arrêt Roe contre Wade ne soit pas annulé. Avec cette décision, la majorité conservatrice de la Cour suprême montre à quel point elle est radicale, à quel point elle est éloignée de la majorité de ce pays. Ils ont fait des États-Unis une exception intolérable parmi les pays développés. Mais cette décision ne signifie pas la fin de l'histoire. Mon administration va utiliser tous les pouvoirs légaux à sa disposition. Le Congrès doit agir et avec votre vote, vous pouvez agir. Vous pouvez avoir le dernier mot. Ce n'est pas terminé.
You can have the final word. This is not over.
Joe Biden qui fait référence là aux prochaines élections législatives de mi-mandat où la situation s'annonce compliquée pour le camp démocrate. Autre réaction, celle de Donald Trump, l'ancien président américain qui a fait basculer la Cour suprême dans le camp conservateur. Il évoque la volonté de Dieu. Cette révocation du droit à l'avortement aux États-Unis fait réagir bien au-delà des frontières américaines. Un reportage de Nicolas Falaise pour Radio France Internationale.
L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes, il faut le protéger. Réaction du président français Emmanuel Macron qui exprime sa solidarité avec les femmes dont les libertés sont remises en cause par la Cour suprême des États-Unis. La première ministre française, Elisabeth Borne, parle d'un jour sombre pour les droits des femmes, alors que dans l'opposition de gauche, on réfléchit déjà à une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau parle de nouvelles horribles et ajoute qu'aucun gouvernement, aucun politicien ni aucun homme ne devrait dicter à une femme ce qu'elle peut faire ou ne pas faire avec son corps. Au Royaume-Uni, le chef du gouvernement Boris Johnson déplore un grand retour en arrière. Et puis cette réaction de Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, regrette un coup terrible porté aux droits des femmes et souligne que les femmes possédant de faibles revenus ou appartenant à des minorités raciales et ethniques seront plus particulièrement affectées.
Et pour clore cette page consacrée au bannissement du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine en 2022, je voudrais lire cette citation de Simone de Beauvoir, grande défendresse des droits des femmes largement entravés aujourd'hui. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Fin de citation. En Afghanistan, l'extrême dénuement des rescapés du séisme qui a frappé le sud-est du pays en milieu de semaine. Selon un bilan toujours provisoire, au moins 1100 personnes ont été tuées, 1600 blessées. Dans le district de Gayan, la province la plus touchée, 90% des habitations sont endommagées. Les habitants vivent désormais sous des tentes de fortune. Reportage sur place, signé Sonia Ghezali.
Dans le village de Tcho, de nombreux toits sont effondrés, des murs entaillés par de larges failles. La plupart des maisons en terre ici sont partiellement effondrées. Nassiboula, 11 ans, nous emmène dans la sienne. Les chambres ne sont plus que des tas de gravats.
Deux personnes de notre famille sont mortes et une personne est blessée. Après le tremblement de terre, on a laissé ces chambres parce que vous voyez comment les murs sont cassés. On s'est tous installés là. On a peur que ça recommence et qu'on soit tués, alors on reste dehors.
Dans la cour, trois femmes sont assises sur des nattes en plastique. C'est là que la famille vit désormais, le cœur lourd, 12 de leurs proches sont morts. Dimbacha a perdu ses deux enfants, Amna et Shukur étaient âgés de 3 et 2 ans.
J'ai réussi à retenir à bout de bras une partie du plafond qui s'est effondré. J'ai pu sauver ma femme, mais pas mes enfants, malheureusement. Mes deux enfants sont morts. Ma femme est blessée, elle est à l'hôpital. Je ne sais pas comment elle va.
Il enfouit ses yeux rougis dans son chèche et s'éloigne. Son père attend désespérément l'aide humanitaire qui n'est toujours pas arrivée.
Quand nous recevrons les tentes, nous irons nous installer près des montagnes.
Dans le village, personne ne dort dans sa maison depuis le séisme, car des répliques ont encore fait trembler la terre au cours de ces dernières 24 heures.
Direction l'Ukraine, où après des semaines de résistance acharnée et au lendemain de l'obtention de son statut de candidat à l'Union européenne, Kiev ordonne aux forces ukrainiennes de se retirer de Severodonetsk dans l'est du pays. Une étape cruciale pour les Russes qui veulent conquérir tout le bassin industriel du Donbass. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens ne seraient pas en capacité de mener des contre-offensives. C'est ce qu'estime le général Dominique Trinquant. On l'écoute.
Je pense qu'elles n'ont pas vraiment les capacités aujourd'hui de lancer des contre-offensives. Le sujet principal des Ukrainiens aujourd'hui, c'est de ne pas user leurs forces dans des combats retardateurs qui se font écraser par l'artillerie. C'est de se mettre en place sur des positions favorables pour pouvoir arrêter fermement l'offensive russe. Et donc, c'est pas ce qui s'est passé ces 15 derniers jours à Severodonetsk. Je pense que l'effort russe va continuer. Leur but, c'est bien de prendre l'ensemble du Donbass pour pouvoir clamer la victoire. Alors il s'agit bien sûr d'user les forces russes dans cette tentative de conquête du reste du Donbass et de les arrêter sur une ligne favorable. Il faut que l'Ukraine absolument étudie la capacité à la fois sur des lignes de terrain favorables, mais aussi grâce à l'équipement qui leur est fourni par les Occidentaux, de coordonner les actions de feu pour arrêter les Russes.
Shirin Abu Akleh a bien été tuée par l'armée israélienne, c'est ce qu'affirment les Nations Unies. La journaliste palestino-américaine, reporter vedette de la chaîne de télévision Al Jazeera, a été abattue d'une balle dans la tête le 11 mai dernier. Elle couvrait une opération des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée. Ce rapport des Nations Unies vient confirmer la version des journalistes sur place. À Jérusalem, la correspondance pour RFI de Sami Boukhelifa.
L'enquête des Nations Unies corrobore également toutes les enquêtes indépendantes menées par des médias internationaux ces dernières semaines. Toutes les informations que nous avons recueillies, y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinien, aboutissent à la même conclusion. Les tirs qui ont tué Shirin Abu Akleh provenaient des forces de sécurité israéliennes, explique ainsi la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le 11 mai dernier, dans l'heure qui suit le drame, l'État hébreu commence par rejeter toute responsabilité, affirmant que ce sont des tirs indiscriminés des groupes armés palestiniens qui ont atteint la journaliste. Quelques jours plus tard, les Israéliens changent de version. Ils ne sont plus aussi catégoriques, ils n'excluent plus qu'un de leurs soldats puisse être à l'origine du tir. Mais Israël reste droit dans ses bottes et rejette la faute sur les Palestiniens qui déclinent sa proposition de participer à des investigations conjointes. L'armée israélienne réclame la balle qui a tué Shirin Abu Akleh pour déterminer l'origine du tir. Les Palestiniens, eux, réclament à Israël l'arme qui l'a tué.
En France, les plaidoiries de la défense se sont achevées au procès des attentats du 13 novembre 2015. C'est l'un des procès criminels les plus longs de l'histoire moderne. Derniers avocats à prendre la parole, ceux de Salah Abdeslam. Souvent présenté comme le principal accusé de ce procès historique et seul survivant des attaques de Saint-Denis et de Paris, Nathanaël Vitran pour RFI.
Vous vouliez mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Maître Olivia Ronen paraphrase Brassens pour dénoncer la peine demandée par le parquet national antiterroriste. La perpétuité incompressible, sans remise de peine possible. La pire sanction pénale prononcée à seulement 4 reprises. Que les choses soient claires, il a apporté son aide à l'État islamique. Il a accepté de faire partie des commandos terroristes. Il a déposé 3 hommes équipés de ceintures d'explosifs au Stade de France avant de s'enfuir. Bien sûr que nous nous attendions à une sanction lourde, mais la perpétuité incompressible, c'est comme si ces 9 mois n'avaient pas eu lieu. Ses avocats se sont attachés à souligner l'évolution de Salah Abdeslam entre le soldat de l'État islamique qui s'est présenté ainsi à la barre le premier jour et l'homme en larmes qui a présenté ses condoléances et ses excuses aux victimes lors de sa toute dernière prise de parole. Une émotion que je ne lui connaissais pas, lui qui pendant 6 années n'avait dans sa cellule qu'un seul costume, l'armure du djihadiste, a finalement trouvé dans son placard de quoi s'habiller autrement. L'avocate insiste sur son renoncement à se faire exploser. Elle conclut par une adresse à la cour. Il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir. Si vous suivez le parquet, c'est le terrorisme qui aura gagné et nous n'aurons plus qu'à comprendre que ce procès n'était qu'une farce.
Et lundi, les 14 accusés de ce procès seront invités à prendre une dernière fois la parole, puis la cour se retirera pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée en France, dans la nuit de mercredi à jeudi, ici en Australie. Du côté de la politique française, eh bien c'est encore le flou depuis le résultat des élections législatives. Le gouvernement tente de faire des alliances pour ne pas se retrouver bloqué à l'Assemblée nationale au moment de faire passer de nouvelles lois. La première ministre a consulté l'ensemble des présidents de groupe. Elisabeth Borne a notamment appelé Mathilde Panot, la patronne des députés de la France Insoumise, pour trouver un terrain d'entente.
L'appel avec la Première ministre, qui était assez lunaire sur beaucoup des aspects. D'abord parce que lorsque je demande à la Première ministre si, comme cela se passe dans toutes les démocraties, elle va venir devant l'Assemblée nationale pour faire un discours de politique générale et demander la confiance à l'Assemblée nationale, la réponse de la Première ministre est celle-ci, on verra. Et l'impression générale qui se dégage de cet appel est finalement que la Macronie est en fait en train de naviguer à vue et ne sait absolument plus où elle va. Et en fait, on ne sait pas bien où ils vont, donc on ne peut pas bien se positionner lorsqu'on ne sait pas où ils vont. Mais tout cela, en fait, revient à la question du vote de confiance. C'est que la question est de dire que la Macronie a aujourd'hui perdu les élections législatives. Et on se retrouve avec un pouvoir qui refuse d'infléchir de rien. Son programme qu'il a présenté aux élections présidentielles.
Interrogé à l'issue du Conseil européen qu'il présidait à Bruxelles, Emmanuel Macron, lui, s'est dit très confiant dans sa capacité à bâtir des majorités constructives, comme en Allemagne ou en Italie, avec l'ensemble des partis de gouvernement. On l'écoute.
La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays? Donc moi, je suis très confiant parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation. Et donc, je pense que les choses avanceront. Mais avec, encore une fois, un modèle qui est un peu différent selon les pays.
Un point sur la météo de ce samedi après-midi. Il fera 19 degrés à Perth, des nuages, des averses à Adélaïde, 16 degrés. Nuageux à Melbourne, 16 degrés également. Des averses à Hobart en Tasmanie, 14 degrés. Des nuages à Canberra, 14 degrés également. Des nuages à Sydney, mais 21 degrés. Soleil à Brisbane, 22 degrés. Nuageux à Cairns, 27 degrés. Et Darwin, grand soleil, 32 degrés. On vous rappelle le principal titre de l'actualité du jour. La Cour suprême américaine révoque le droit à l'avortement et laisse les États choisir s'ils autorisent ou non l'IVG sur leur territoire. Le Missouri devient le premier État à l'interdire, suivi de près par le Dakota du Sud. Il s'agit là d'un coup terrible porté aux droits des femmes et un retour en arrière de près de 50 ans, puisque ce droit à l'avortement, était acquis aux États-Unis depuis 1973.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French, l'émission continue tout de suite, le journal des sports. Le journal des sports de ce samedi 25 juin, tennis et J-2 avant le début de Wimbledon à Londres. Le tirage au sort du simple dames a livré son verdict pour son grand retour à la compétition en simple. Serena Williams a hérité au premier tour de la française Harmony Tan, 113e joueuse mondiale. En rugby, finale du top 14, la victoire de Montpellier face à Castres 29-10. Montpellier qui succède donc à Toulouse et devient champion de France pour la première fois de son histoire. On écoute l'arrière Anthony Boutier qui a inscrit le troisième essai de son équipe.
C'est énorme parce que c'est un rêve de gosse qui se réalise là. On a du mal à réaliser encore, mais parce que c'est à chaud là. Mais putain que c'est bon, on est champion de France quoi. C'est énorme, on est champion de France. C'était tout un groupe, toute la saison pour en arriver là. On est 40, 45 où chaque week-end on se donne tous à fond pour l'équipe, pour le club. On est les premiers à avoir gagné ce titre, donc c'est aussi pour eux, pour tous les supporters qui se déplacent. Et puis nous aussi, quoi. Nous, que du bonheur de gagner, quoi. C'est énorme.
Voilà Anthony Boutier, un arrière de Montpellier. Montpellier champion de France pour la première fois. Rugby toujours, mais en Australie cette fois. La Nouvelle-Galles du Sud a remporté le Women's State of Origin de cette année en battant le Queensland 20-14 à Canberra. Isabelle Kelly de l'équipe du New South Wales a été élue joueuse du match. Et de 8 pour l'équipe de France en cette avant-dernière journée des mondiaux de natation à Budapest. Les Bleus continuent leur moisson de médailles avec deux nouvelles victoires. Le record de 2011 est égalé. Maxime Rousset obtient le bronze sur le 50 mètres libre derrière le Britannique Proud et l'Américain Andrew. Il avait déjà gagné l'argent sur le 100 mètres. Et sa compatriote Mélanie Hennick arrive numéro 2 sur le 50 mètres papillon, devancée par la Suédoise grande favorite. La jeune femme de 29 ans qui s'entraîne à Marseille s'est exprimée juste après avoir décroché l'argent, on l'écoute.
Je suis très contente avec tout ce qui s'est passé cette année. C'est beau. J'ai tout mis dans cette course. La seule chose que j'ai vue à l'arrivée, c'est ce plot, c'est de lumière. Je me suis dit, allume le plot. Ouais, je pense très fort à mon frère, très fort à ma famille, très fort à mon père qui m'a dit que j'y arriverais pas. Et ben voilà, il a eu tort. ça fait 13 ans que je suis en équipe de France. Je vis des moments extraordinaires, mais franchement, j'en chie beaucoup.
De leur côté, les Australiens ont établi un record du monde dans la finale mixte du 4x100 mètres nage libre. Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson et Molly O'Callaghan ont réalisé le nouveau temps record de 3 minutes 19,38 secondes. Football à présent, ou plutôt FIFA Gate. Nasser El Khelaïfi a été acquitté une deuxième fois en appel dans l'affaire des droits TV du Mondial. Le président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group était jugé dans une affaire de corruption sur la cession des droits télévisés des Coupes du Monde 2026 et 2030. Le parquet avait requis 28 mois de prison contre le dirigeant parisien. Il s'en sort finalement sans poursuite, comme cela avait été le cas lors de son procès en première instance. C'était en octobre 2020. Autre prévenu dans cette affaire, Jérôme Valk, ancien numéro 2 de la FIFA, lui a été condamné. Le Français écope d'une peine de 11 mois de prison avec sursis et d'une amende. Le parquet avait requis 35 mois de prison. Football toujours, et le coach de l'équipe féminine d'Australie, Tony Gustafsson, a appelé ses joueuses à savourer la chance de jouer contre l'Espagne demain en match amical. Il s'agit là du tout premier match international féminin entre ces deux équipes, l'Australie et l'Espagne donc. On écoute l'entraîneur des Matildas.
Someone asked me why you're playing such a tough opponent when you don't have all your best players available. Well, I think it's a great opportunity to actually play one of the best teams in the world with that roster to get answers, because otherwise we might lie to ourselves and yes, play a lower ranked team. And I've said it so many times, you all know that, like, tough schedule is key for us. European opposition is key for us. We never played Spain before.
Et ensuite, les joueuses australiennes affronteront le Portugal mercredi. Et enfin, pour clore cette page consacrée au ballon rond, retour dans l'Hexagone et le verdict est tombé contre le club de Saint-Etienne après les incidents survenus lors du barrage contre Auxerre le 29 mai dernier. 6 points de retrait en championnat de Ligue 2, dont 3 fermes, et 6 matchs à huis clos, dont 2 avec sursis. Saint-Etienne a d'ores et déjà annoncé ne pas faire appel de ces sanctions. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre journal des sports de ce samedi 25 juin.
Comme l'automne avant la oh, que ça n'est du tout si you are the reason.
Quand la Française Barbara Pravi rencontre le Britannique Callum Scott, c'était la chanson « You are the reason ». Comme chaque samedi, on en parlait en sommaire, c'est l'heure de la rubrique rétrospective. On fait un bond de 13 ans dans le passé, 25 juin 2009 et le décès totalement inattendu de Michael Jackson aux États-Unis. Léo Roussel nous raconte. Nous sommes le 25 juin et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir à la fin des années 2000 pour un événement encore terriblement marquant dans l'histoire de la musique. Le 25 juin 2009 aux États-Unis, souvenez-vous, Michael Jackson, véritable icône de la pop, décédé à l'âge de 50 ans seulement. Retour sur un décès au retentissement international et à la couverture médiatique hors du commun avec Léo Roussel et des archives sonore de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, et de France Télévisions.
Oh mon Dieu.
It's hard.
C'est dur.
My brother,
mon frère,
the legendary king of pop, Michael Jackson,
le légendaire roi de la pop Michael Jackson,
Thursday,
est mort ce jeudi à 14h26.
It is believed he suffered
probablement d'une crise cardiaque à son domicile.
C'est sous les flashs des photographes, sous les yeux du monde entier, que Jermaine Jackson, le grand frère de Michael Jackson, annonce la mort du roi de la pop le 25 juin 2009 à l'hôpital UCLA de Los Angeles aux États-Unis. C'était il y a 13 ans déjà. Alors revenir sur la carrière de Michael Jackson, sur plus de 40 ans de musique entre ses débuts avec ses frères avec qui il composait les Jackson 5 et son impressionnante carrière solo serait beaucoup trop long. On va revenir plutôt sur son décès qui a à lui seul bouleversé partout dans le monde, monopolisé des heures et des heures d'antenne dans de nombreux pays, comme l'explique cet extrait de documentaire diffusé sur France Info pour les 10 ans de la mort de Michael Jackson le 26 juin 2019.
En 4 jours, il y aura 3h08 de reportage consacré à la star, rien que sur les JT du soir de grandes chaînes généralistes. Mais les reportages et les éditions spéciales commencent dès 13h le 26 juin, décalage horaire oblige.
À 13h donc, le 26 juin 2009, les principaux journaux télévisés français prennent l'antenne et diffusent les images du corps de Michael Jackson, transporté depuis l'hôpital jusqu'à l'institut médico-légal où une autopsie doit être réalisée, car la mort de Michael Jackson intervient dans des circonstances assez étranges. Le 24 juin, la veille de son décès, la star américaine répète dans la salle du Staples Center, toujours à Los Angeles, pour sa tournée This Is It, qu'il devait débuter quelques semaines plus tard, en juillet, à Londres. Les répétitions se passe bien et plusieurs personnes affirment que le chanteur est alors en pleine forme, mais le lendemain matin, Michael Jackson ne se réveillera pas. C'est son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, qui le découvrira sur son lit. Il tentera, comme plusieurs autres personnes, de réanimer la star transportée jusqu'au Ronald Reagan UCLA Medical Center. En vain, Michael Jackson est déclaré mort à 14h26 et s'ensuit une vague d'hommages partout dans le monde.
Même émotion ce matin en Angleterre ou encore devant l'ambassade des États-Unis à Moscou.
Ça fait mal. C'était un grand monsieur. Qu'il repose en paix.
À Pékin, on se souvient surtout de Michael Jackson, icône pop et occidentale en pays communiste.
Sa musique, son rythme, ses danses ont eu un impact très fort ici, au moment où la Chine s'ouvrait au monde. Son travail était aussi symbolique.
À ce moment, les réponses concernant la mort de Michael Jackson sont assez floues. On le croit mort d'un simple arrêt cardiaque, mais tout va s'éclairer à la fin de l'été. Le 28 août, la mort de Michael Jackson est reclassée en homicide. Le coroner du comté de Los Angeles déclare que Michael Jackson est mort d'une combinaison de médicaments, notamment d'un anesthésique, le propofol, et d'un anxiolytique, le lorazépam. Le docteur Conrad Murray, qui lui a administré le propofol, est condamné pour homicide involontaire à 4 ans d'emprisonnement en novembre 2011, avant d'être libéré en octobre 2013 pour cause de surpopulation carcérale. Alors autour de la mort de Michael Jackson, les scandales s'enchaînent, entre le procès du médecin, la guerre du clan Jackson pour des questions d'héritage, et même dans les années qui suivent, des accusations de pédophilie. Même 10 ans après sa mort, on parle toujours autant de Michael Jackson. En 2019, en effet, un documentaire choc diffusé aux États-Unis intitulé Living Neverland, du nom de la célèbre propriété de la star, voyait 2 nouvelles personnes accusées, Michael Jackson, d'agression sexuelle et de pédophilie. Aujourd'hui, Michael Jackson reste considéré comme une icône de la pop. Ses tubes planétaires restent joués sur de nombreuses radios et de nombreux spectacles lui ont depuis rendu hommage, comme le fait en ce moment, toujours, la troupe du Cirque du Soleil à Las Vegas aux États-Unis avec son spectacle Michael Jackson One.
C'était Benjamin Biolay dans la mer Cobenz, une chanson que nous affectionnons très particulièrement dans l'équipe de SBS French. On prend la direction de Perth maintenant à la rencontre du directeur de l'Alliance française, une alliance française qui a fait peau neuve, comme vous allez l'entendre après une très courte pause. A tout de suite sur Radio SBS.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
On est à l'Alliance française de Perth avec Thomas Feldstein, le directeur de cette alliance. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Des locaux tout neufs, ça sent bon, presque la peinture fraîche.
C'est ça, on a eu des gros travaux toute l'année dernière, même si moi je suis arrivé en septembre, mais des gros travaux de rénovation qui nous ont permis d'avoir maintenant 5 salles de classe vraiment bien équipées. Et puis surtout cette belle salle culturelle dans laquelle maintenant on peut organiser des expos, des conférences, des projections de films, voilà, avec une belle baie vitrée qui nous permet d'avoir une terrasse extérieure, enfin ouais, un beau bâtiment, j'en suis très content.
Parlez-nous un petit peu justement du du français à Perth dans le WF. Comme tout le monde, il y a eu le Covid, il y a eu des hauts et des bas dans tout ça, mais on regarde forcément vers l'avenir. Est-ce que tout ça, ça a changé les choses pour l'apprentissage et l'enseignement du français ici?
Alors oui, il y a des choses qui ont changé. Moi, d'abord, je voudrais dire que je suis impressionné depuis que je suis là par l'appétence pour le français, pour la France en général. On sait bien que globalement, les Australiens ont plutôt une image positive de la France, sont plutôt intéressés. Beaucoup d'entre eux voyagent et sont déjà allés en France. Mais ici, il y a une envie de France et de langue française. Alors bien entendu, la phase Covid que Western Australia a expérimenté, si je peux dire ça, ces derniers mois a changé un petit peu la donne, mais avec une diminution, hein, pour être honnête, de nos apprenants, tout simplement parce que les gens n'avaient pas envie de venir en classe. Bien entendu, on est passé par des cours en ligne qu'on propose toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, on sent bien qu'il y a plus de réticence au regroupement. Néanmoins, on est toujours là sur une volonté d'apprendre le français. On développe les cours pour enfants et pour adolescents. Ça fonctionne bien. Et puis, on a des traditions, en quelque sorte, ici en Western Australia. La tradition notamment des AF Exams, qui est un examen qui existe depuis plus de 100 ans maintenant, ici à Perth, enfin, en Western Australia, et qui rassemble chaque année 1000, 1200, 1500 étudiants. L'année dernière, ont passé ces AF Exams, qui sont évidemment pas du tout obligatoires, hein, c'est un choix de la part des professeurs et des élèves de s'inscrire, parce que voilà, il y a ce diplôme à la fin qui a une valeur, qui a une valeur sociale aussi, hein. On voit les écoles privées notamment, qui sont un peu en concurrence les unes les autres, c'est assez drôle.
L'histoire du français et de l'Alliance française ici, donc à Perth, ça date pas d'hier. Il y a une vraie implantation des Alliances françaises à travers tout le pays. On le sait, ils sont là depuis plus de 100 ans dans certains endroits. Mais Western Australia, c'est là depuis très longtemps aussi.
111 ans, très précisément. Exactement, parce que comme en 1911 pour la création de l'Alliance française ici. Oui, une alliance. Et puis une alliance qui, depuis très longtemps, a eu un ancrage, y compris politique, institutionnel. En se plongeant dans les archives, on voit que l'Alliance a d'abord été hébergée dans des écoles, dans des lycées privés, prestigieux, évidemment. On voit que des hommes et des femmes politiques sont passés par l'Alliance française. Aujourd'hui, la maire de Nedlands, le quartier, la city dans laquelle on se trouve, est une francophone et une francophile. La députée du coin a appris le français et est toujours ravie de venir nous rendre visite. Donc il y a une histoire, en effet. L'Alliance française a, comme souvent, connu différents endroits, différentes locations. Mais aujourd'hui, on est implanté dans ce quartier. Et c'est ma volonté, hein, depuis que je suis arrivé en septembre, de connecter ou reconnecter l'Alliance avec son environnement proche, avec ses partenaires, bien sûr, politiques, institutionnels, éducatifs, culturels, mais aussi avec son environnement proche. Donc, deux exemples comme ça pris à la volée. Nous allons organiser prochainement des lectures bilingues à la bibliothèque du quartier, gratuitement, bien entendu, pour les enfants. Et puis, au mois de septembre, on va accueillir ce qu'on appelle le Business Down Sundowner, pardon, qui est un regroupement organisé par la mairie de Nedlands pour les propriétaires de business d'activités dans le quartier. Et ce sera à l'Alliance. Voilà, donc c'est une manière de redonner en quelque sorte à la communauté, hein, qui nous accueille. Et puis, allez, je rajoute un troisième exemple, c'est le lien qu'on commence doucement à tisser avec l'école primaire, qui est notre voisine, à quelques rues d'ici, et à qui je voudrais faire profiter du passage d'un groupe de musique de Nouvelle-Calédonie au mois de septembre. Donc, on va aller faire une petite séance découverte des sons de Nouvelle-Calédonie à l'école primaire du quartier.
Mais c'est ça le rôle d'une alliance française, c'est vraiment s'ouvrir sur son environnement proche, mais aussi faire découvrir une culture qui peut être parfois lointaine pour les habitants, pour vos voisins.
Exactement, moi je vois les alliances françaises, que ce soit dans mes expériences précédentes ou ici, comme des lieux où on construit des ponts. On construit des ponts entre les Français et les Australiens. L'alliance française n'est ni un club français, ni un club australien réservé uniquement aux étudiants qui apprennent le français. C'est un endroit où tout le monde se retrouve. Hier soir, on avait une séance de cinéma. La moitié de la salle était française ou francophone, l'autre moitié était australienne, et tout le monde a ri. Ils ont regardé Le Grand Bain, c'était très très drôle. Et donc tout le monde a ri ensemble. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment proposer un endroit où tout le monde se retrouve, faire découvrir la France, bien sûr, garder cette image un peu traditionnelle qu'ont les Australiens, parce qu'ils aiment ça, parce qu'elle fait vendre aussi, soyons honnêtes, leur montrer que l'Alliance française, c'est d'autres choses, hein, plus récentes, on va dire, plus modernes, en quelque sorte. La culture française, hein, c'est pas que la baguette et le béret, c'est aussi la French Touch, c'est aussi la musique électronique, par exemple, c'est aussi des artistes contemporains, bien entendu. Et puis une dernière chose, c'est montrer que le français, c'est pas que le français de France, c'est aussi le français des territoires francophones, des pays francophones. Et moi qui ai habité en Nouvelle-Calédonie quelques années, je garde un fort attachement avec ce territoire et je suis très heureux effectivement de proposer la venue d'artistes de Nouvelle-Calédonie. Non pas comme palliatif parce qu'on n'arriverait pas à faire venir des gens de France, pas du tout, mais pour au contraire montrer la richesse d'autres territoires, la richesse culturelle de la Nouvelle-Calédonie, la richesse linguistique aussi de la Nouvelle-Calédonie. Et j'espère bien l'année prochaine normalement faire la même chose avec la Réunion.
De l'autre côté. Et mais c'est vrai qu'on l'oublie assez souvent que l'Australie a une frontière avec la France. Et cette frontière, c'est la Nouvelle-Calédonie.
C'est la Nouvelle-Calédonie d'un côté, dans le Pacifique. C'est même la Réunion de l'autre côté, dans l'océan Indien, évidemment. Peu d'Australiens savent situer comme la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie. Mais justement, on est là aussi pour ça, pour leur rappeler que la France, c'est pas que l'Hexagone, c'est pas que l'Europe. Il y a d'autres territoires français ou francophones dans le monde. Et puis des pays francophones également. Moi, je suis ravi d'accueillir les consuls ou les consuls honoraires, par exemple, puisque nous avons un lien assez fort avec le consulat honoraire de France ici à Perth. Et donc, régulièrement, on a les réunions de consuls. Plusieurs sont francophones et plusieurs sont issus de pays francophones. Donc, on est ravi de les avoir aussi.
On ne le voit pas trop à la radio, hein, mais on sent que vous êtes illuminé par l'Alliance française. C'est quelque chose qui coule dans vos veines, dans votre sourire. Hein.
Je ne sais pas si je suis illuminé, mais j'ai un attachement à cette institution qu'est l'Alliance française et que sont les Alliances françaises. C'est ma deuxième expérience en tant que directeur d'Alliance française, mais c'est, on va dire, la quatrième, presque cinquième fois où je travaille dans une Alliance française. J'ai travaillé à Nouadhibou, en Mauritanie, j'ai travaillé à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, également, dans une moindre mesure, à Canberra, en Australie. À chaque fois, je retrouve dans ces Alliances françaises une chaleur, en effet. C'est un modèle exceptionnel, c'est un modèle d'abord local. Les alliances françaises sont des associations de droit local partout où elles se trouvent et parfois soutenues par le ministère français des Affaires étrangères, que ce soit financièrement, que ce soit par la mise à disposition d'un directeur ou d'une directrice, mais toujours animées par des locaux, par un comité ou un board local qui ont envie de faire découvrir la culture française, la langue française, des lieux où se retrouvent, comme je disais tout à l'heure, à la fois des locaux et puis des Français expatriés, des Français de passage. Donc oui, moi je suis très attaché à ce modèle qui a une vraie force dans la diffusion de la culture et la langue française à travers le monde.
On peut vous souhaiter quoi pour 2022, 2023 ? Parce que vous, voilà, les travaux, le Covid, il y a eu quand même beaucoup de pain sur la planche. Aujourd'hui, on tourne peut-être un peu la page de ces moments-là. À partir de là, il se passe quoi pour vous ?
Alors, je vais être très trivial, mais les travaux ont rendu les caisses très vides. Donc, il faut que nos propositions de cours de français, puisque c'est évidemment le nerf de la guerre, rencontrent comment le succès espéré et que les étudiants répondent présents à nos propositions. Moi, ce que je souhaite vraiment pour l'Alliance française de Perth, c'est qu'elle soit un hub, pardon, je reprends un mot, un anglicisme, mais un lieu à la fois pour les associations francophones et françaises de Perth, où elles peuvent se retrouver avec grand plaisir. Je mets à disposition nos locaux pour, je le disais tout à l'heure, le consulat, mais aussi les associations françaises comme le French Club de l'université, l'association French Assist Perth également. On travaille en connexion avec le Perth French Theatre. Voilà, toutes ces organisations, j'ai envie que l'Alliance française leur soit utile. Pas du tout en voulant prendre le contrôle, certainement pas. On n'a pas du tout cette vocation, c'est pas du tout ma volonté. Juste leur être utile, mettre nos locaux à disposition, monter des projets communs. Voilà, donc ça c'est une première réflexion, c'est connecter, reconnecter l'Alliance française avec les organisations et les Français de Perth. Puis la deuxième chose, c'est cette reconnexion avec l'environnement australien. Alors je parlais tout à l'heure d'environnement vraiment local, hein, avec notre quartier, mais plus largement les institutions culturelles. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait cette démarche, j'ai fait mon petit tour en quelque sorte, hein, des institutions culturelles. À notre humble niveau, l'Alliance française par rapport à des institutions comme le Perth Festival, comme le musée ou les galeries ici, l'Alliance française c'est tout petit, hein, j'ai vraiment une grande humilité. Mais quand même, leur dire qu'on est là, leur dire que si un jour ils envisagent d'inviter un artiste ou une artiste français, eh bien on est là peut-être pour avoir un lien à ce moment-là. Et puis l'autre connexion, c'est avec le milieu scolaire. Pour moi, c'est vraiment une priorité. Le français est enseigné dans beaucoup d'établissements ici en Western Australia, mais je crois qu'on peut renforcer ce lien entre l'Alliance française et les établissements scolaires, d'abord à travers la participation au French Film Festival, et il y a chaque année des films spécifiquement pour les séances scolaires, et puis avec les AFXAM dont je parlais tout à l'heure, ce grand moment, comment dirais-je, de test, bien sûr, hein, de niveau de français, mais qui est aussi un moment de partage, la remise des prix, la cérémonie de remise des prix est toujours un moment vraiment chaleureux, hein, encore une fois, avec les étudiants, avec les professeurs. Donc voilà, connecter, reconnecter l'Alliance, c'est vraiment pour moi une priorité.
Eh bien, on vous souhaite du bon courage pour tout ça, et merci. Puis en espérant vous revoir assez rapidement, en tout cas sur les ondes d'SBS. Merci Thomas.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
C'était « Quand je marche comme Ben Mazuet », chanson interprétée par le chanteur belge Roméo Elvis, chanson que vous pouvez retrouver dans notre sélection du mois de juin. On reste sur le thème de la culture et à la NGV, la National Gallery du Victoria, à Melbourne donc, sont actuellement exposées plus de 70 œuvres de Pablo Picasso, une exposition qui a commencé il y a 2 semaines et qui se prolonge jusqu'au 9 octobre. Jean-Noël Ducasse fait le point pour SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous avons le plaisir d'avoir Didier Ottinger, qui est le directeur adjoint du Centre Pompidou à Paris. Et vous êtes ici dans le Victoria pour l'inauguration des Winter Masterpieces à la National Gallery du Victoria, The Picasso Century. Peut-être d'abord pour nos auditeurs, parler de cette exposition et les différents thèmes des œuvres de Picasso que le public australien va voir.
L'idée était de proposer une nouvelle interprétation de l'œuvre de Picasso qui se trouve, vous le verrez dans l'exposition, en permanence mis en relation avec les événements, avec les lieux, avec les personnes ou avec les idées avec lesquelles il a été en contact. Ce qui donne l'idée d'un Picasso qui est une sorte d'éponge, certains disent un cannibale, ça dépend du point de vue qu'on adopte, en tout cas quelqu'un qui interagit en permanence en fonction du contexte dans lequel il se trouve.
Parler de la collaboration de la NGV avec le Centre Pompidou et avec d'autres musées en France pour la mise en place de cette exposition, on imagine que c'est un travail qui prend des années de coopération.
Une collaboration qui a eu lieu il y a un peu plus d'une dizaine d'années entre le Centre Pompidou et à l'époque la galerie de Brisbane, le musée de Brisbane. À l'époque, j'avais pu organiser une exposition consacrée au surréalisme. Le directeur du musée à l'époque était Tony Elwood et quelques années plus tard, il a été nommé à la tête de la NGV. Et presque aussitôt, il m'a contacté en me disant « Bon, essayons d'imaginer quelque chose qui soit de l'ampleur du nouveau musée dont je vais avoir la responsabilité. » Le premier nom qui m'est venu à l'esprit, évidemment, c'était Picasso, parce que dans le siècle, on peut difficilement faire mieux. Et puis, au fil du temps, on a pu échanger et imaginer une exposition qui offre, si possible, un nouveau regard sur l'œuvre de ce géant du XXe siècle.
Le public australien va donc pouvoir apprécier une centaine d'œuvres de Picasso et aussi des œuvres d'autres artistes moins connus du public en général.
Voilà, parce que Picasso est évoqué à chacun des moments de sa vie et il est mis en relation avec les artistes, les intellectuels ou les poètes avec lesquels, effectivement, il a commercé, il a dialogué. On le voit, par exemple, dans les premières années de son arrivée à Paris, en relation avec des artistes comme les artistes naïfs, par exemple, qui ont peint Montmartre avec Utrillo, avec Marie Laurencin, qui était la compagne d'Apollinaire. On le voit en relation avec Suzanne Valadon, qui était un modèle qui ensuite va devenir peintre. Et puis, on le voit un peu plus tard, évidemment, dans cette relation étroite qui lui a permis de créer le cubisme avec, par exemple, Georges Braque. Et il y a dans l'exposition une sorte de d'exposition dans l'exposition qui est consacrée au développement du cubisme. On le verra un peu plus tard entrer en relation avec une autre génération de poètes qui est celle des poètes de l'après-Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les Aragons, les Lions, les Bretons, qui vont former le mouvement surréaliste. Et il y a là, dans l'exposition, à nouveau, une sorte d'exposition dans l'exposition, cette fois consacrée au surréalisme. Et on verra dans cette salle, par exemple, consacrée au surréalisme, aussi bien des œuvres de Juan Miró que d'André Masson, que de Max Ernst, que de Salvador Dalí, que de René Magritte. Et ça va continuer jusqu'à la fin de la vie de Picasso, qui est évoqué jusqu'à sa mort en 1973.
Le public australien a 4 mois pour découvrir, pour redécouvrir Picasso. Il y a eu d'ailleurs, je rappelle, cette exposition il y a quelques années, Picasso, Doramar, Love and War.
Non, hélas, je n'ai pas vu celle-ci, mais effectivement, ce que vous évoquez, c'est un moment précis, fondamental évidemment, comme chacun des moments de l'œuvre de Picasso, mais qui est lié sans doute à la période qui est celle de la guerre civile espagnole et de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire du moment où il était très proche de Doramar, la photographe.
Merci, monsieur Ottinger, et bon fin de séjour en Australie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
L'exposition Picasso à la NGV à Melbourne, c'est jusqu'au 9 octobre. Il est 13h et presque 56 minutes sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Un coup terrible porté aux droits des femmes aux États-Unis. La Cour suprême révoque le droit à l'avortement et laisse les États choisir s'ils autorisent ou non l'IVG sur leur territoire. Le Missouri devient le premier État à l'interdire, suivi de près par le Dakota du Sud. L'Ukraine retire ses troupes de la ville de Severodonetsk, une étape cruciale pour les soldats russes qui veulent conquérir le Donbass. Fin des plaidoiries en France dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Les avocats de Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie, étaient les derniers à s'exprimer. Et enfin, 2 nouvelles médailles pour les Français aux mondiaux de natation à Budapest. Ça fait 8, le record de 2011 est égalé. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Marianne Murat. J'ai été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain dimanche. Même fréquence, même heure. Une émission présentée par Jean-Noël Ducasse. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou quelques chroniques, vous pouvez vous rendre sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook SBS French, Spotify, Apple Music ou toutes les plateformes de podcast que vous appréciez. Je vous laisse passer un excellent samedi, je vous souhaite un très bon week-end et on se quitte en chanson avec Édith Piaf, bien sûr, La vie en rose.
Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.